Dans le forum avec Tony Marinaro, on se branche à Habs Radio.
Comme on sait, c'est la réunion des gouverneurs, hein, puis les directeurs généraux sont là, puis Gary Bettman, lui aussi, il est là. Puis on va discuter de quelque chose avec Simon Snake Boisvert, avec moi tous les mercredis dans notre segment Habs Radio. Snake, bonjour.
Salut, Tony.
Comment ça va?
Ça va très bien, merci, et toi?
Good, ça va très très bien. On va parler du Canadien, mais avant ça, on parle du repêchage lors des réunions des gouverneurs, là, le repêchage qui va avoir lieu au mois de juin, parce qu'on a décidé que pas tous les joueurs vont être présents à ce repêchage-là, puis on vient d'annoncer que le top 50 devrait être là, et pas d'autres joueurs. Qu'est-ce que tu penses de ce genre de décision, cette décision-là?
Bien, ça ressemble beaucoup à ce qui se fait dans la NBA puis le baseball majeur, qui n'ont pas des repêchages vraiment aussi avec autant de décorum et d'envergure que ce que la Ligue nationale de hockey a fait au cours des 40 dernières années, c'est-à-dire qu'il y a des milliers de personnes dans la foule, les joueurs sont là, les familles sont là. Donc, je pense que ça commence à suivre un peu plus le modèle des autres ligues où les principaux joueurs sont invités, on a une tribune et les équipes demeurent dans leur ville respective dans ce qu'appelle un war room où finalement, ils sont peut-être moins distraits que lorsqu'ils sont sur le plancher du repêchage là, sur la glace.
Dans les 50, là, c'est-tu un liste par Central Scouting? C'est quoi? Est-ce que tu le sais?
Oui, ça c'est parce que ça, là, tu t'exposes à des déceptions, tu t'exposes aussi à avoir l'air fou. Je te donne un exemple, il y a peut-être, je ne sais pas, quelques années, les Columbus Blue Jackets choisissent Chinakov à première ronde. Je crois qu'il a été choisi 21e. Est-ce que tu penses qu'on l'aurait nécessairement invité? Pas sûr. Alors ça, il s'expose un peu à avoir l'air fou. Et tu t'exposes aussi à vraiment, le mot est peut-être fort, là, mais un peu humilier des joueurs. Dans le sens que dans la Ligue nationale de football, on fait ça. On invite les principaux espoirs. Puis rappelle-toi, Aaron Rodgers, il y a 20 ans, il était supposé partir dans le peut-être premier, deuxième, troisième. Et là, il dégringolait. Il a été choisi 25e. Et la caméra était toujours sur lui, à chaque choix subséquent. Fait qu'à un moment donné, tu sais, c'est un peu malaisant pour les joueurs. Fait que je ne sais pas l'idée. Écoute, à un moment donné, il faut que tu coupes aussi. Tu peux pas. Faut que tu tires la ligne. Tu ne peux pas inviter 250 joueurs non plus. Tu sais, je pense qu'il n'y en a pas de formule parfaite pour tout le monde.
Non, mais est-ce que c'est. Si tu invites 50, là.
Ouais.
Est-ce que ça veut dire là, qu'il va en avoir 18 qui vont être déçus?
Ben oui, assurément, parce que la première ronde, c'est juste 32 noms.
Oui.
Mais je pense que les joueurs qui vont, il faut qu'ils s'attendent à ce qu'il y en ait 18 sur 50 qui soient déçus.
Non, mais je veux dire, les autres 18 ne peuvent pas être là pour la deuxième ronde le lendemain.
Oui, mais la deuxième ronde, tu sais comment ça se passe.
Ça se passe vite.
Il n'y a pas vraiment de podium.
J'aime pas cette formule-là. Je l'aime pas.
Toi, t'aimais mieux tout le monde sur le plancher, puis on appelle les joueurs?
Ouais.
Ouais.
Puis encore une fois, c'est pas parfait non plus. Puis c'est long, mais je sais pas. Moi, j'aimais ça plus. Écoute, on va parler de jeunes joueurs, là.
Oui.
On a souvent parlé de Michael Hage, des Canadiens qui jouaient pour l'Université de Michigan. Hier, il a gagné un trophée individuel assez important.
Vas-y donc.
Mais c'était le freshman, là, dans le Big Ten?
Oui, dans le Big Ten, c'est ça. Ben, c'est une conférence.
Ouais.
Fait que c'est un petit peu comme si on disait dans la division Atlantique, le meilleur joueur est un tel. T'sais, c'est quand même pas c'est pas un trophée d'une importance capitale, mais c'est quand même une bonne conférence, le Big Ten. Et puis oui, c'est une bonne nouvelle qu'il ait remporté cet honneur-là. Surtout que Michigan, cette année, n'a pas une équipe qui est aussi forte que d'habitude. Et ils sont même pas sûrs de participer au tournoi. Dimanche soir, d'ailleurs, on va annoncer la sélection des 16 équipes qui vont faire partie du tournoi de la NCAA. Et Michigan, là, en ce moment, ils sont vraiment, vraiment sur la ligne. Fait que si Michigan est éliminé, est-ce que Hage signe avec le Canadien? Je ne pense pas. Mais c'est sûr que ça va ouvrir la porte à des spéculations dimanche soir si Michigan n'est pas dans le tournoi.
OK, maintenant on va parler de Demidov, que lui, hier, il a joué pour le SKA. Il y a plusieurs partisans qui commencent à être vraiment excités parce que Elliot Friedman a laissé une information sortir comme quoi le Canadien voulait vraiment que Michkov se joigne à... Excuse-moi, que Demidov se joigne à eux à la fin de la saison avec le SKA. Mais il faut faire attention, là, parce que Demidov, il y a un contrat jusqu'au 31 mai.
Mm-hmm.
Donc, se joindre aux Canadiens, ce serait après le 31 mai. Ouais. Les séries commencent la mi-avril. Donc, s'il y a des gens qui pensent que Demidov, si les Canadiens font les séries, va être là pour le premier match des séries, malheureusement, non. Mais si jamais le Canadien va jusqu'au bout puis va en finale, Demidov, évidemment, pourrait être dans l'entourage des Canadiens, lui que son contrat expire le 31 mai.
Ça serait quand même quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Tu sais, on a vu des joueurs de la NCAA se joindre aux équipes en série après avoir signé leur contrat. Je me souviens que Cale Makar avait fait une entrée très remarquée en série pour l'Avalanche, tout de suite après avoir terminé sa saison collégiale. Mais de mémoire, je ne me rappelle pas d'un joueur comme Demidov qui arriverait, disons, en finale de la Coupe Stanley au mois de juin. Fait que je pense que Demidov, à moins que le Canadien s'en traite très, très, très loin, on va le voir seulement l'année prochaine. Mais je ne sais pas, est-ce que tu penses qu'il pourrait y avoir des négociations pour lui permettre de s'échapper de son contrat? Parce qu'oublie pas, la Russie n'est pas admissible aux championnats mondiaux. La Fédération internationale ne veut pas les avoir.
Ouais.
Alors, Demidov, lui, il ne jouera plus au hockey quand la saison du SKA est finie. Est-ce que tu penses qu'il y aura un échappatoire?
Ça s'est pas passé avec Gavrikov à un moment donné, qui jouait pour le SKA?
Oui, tout à fait.
Ça me semble, j'ai lu ça quelque part, là, que Vladislav Gavrikov, là, défenseur qui a été repêché par les Blue Jackets de Columbus, qui jouait pour le Saint-Pétersbourg SKA pendant quelques saisons. Oui. Il a rejoint les Blue Jackets à quelques matchs à faire dans leur saison des séries.
Ça arrive. Mais à ce moment-là, est-ce que le contrat se terminait le 31 mai?
Ça, je ne sais pas.
C'est ça qui arrive. Ouais. C'est que la KHL, là, ils font leurs propres règles. Et puis, c'est une ligue qui est très indépendante du hockey nord-américain. T'sais, ils n'ont pas une grande collaboration avec le hockey nord-américain. Les autres, ils font leur petite affaire. Fait que s'ils décident que Demidov ne vient pas, ben, ils vont dire, Demidov, tu es en contrat jusqu'au 31 mai. Alors, reste chez toi.
Oui, c'est sûr que le Canadien va essayer de négocier si jamais la saison du SKA y est finie, que Demidov se joint au Canadien avant le 31 mai. Ça, c'est sûr. Puis la saison va être finie avant le 31 mai. Donc, ça serait quelque chose. Là. Imagine là, Demidov, Canadien dans les séries, puis Demidov dans l'entourage des Canadiens, ou peut-être jouer pour le Canadien, là, si jamais c'est possible. Ça serait incroyable, là. Ça serait fou, là.
Si on avait dit à la pause du tournoi 4 Nations, ça fait pas longtemps, là, ça fait un mois, que le Canadien pourrait faire les séries, en tout cas aurait des très bonnes chances de faire les séries, parce que c'est ça qui se passe en ce moment. Là.
Ouais.
Très, très bonne chance, en effet. Et qu'en plus de ça, Demidov pourrait joindre à l'équipe. On aurait dit qu'on n'avait pas de sujet de conversation, puis on cherchait quelque chose à parler.
Tu laisses les trios intacts, puis tu mets Demidov à la place de Joshua Roy, lui qui n'a rien cassé à date. J'aimerais te parler de lui. Ouais. On a parlé de plusieurs positifs à matin. Là. Les Canadiens ont gagné un match crucial hier soir. Là.
Mm-hmm.
Mais Joshua Roy, lui qui était déçu d'être envoyé à Laval durant le camp d'entraînement, lui est rappelé vers la mi-mars avec une chance en or. Jouer avec Newhook, jouer avec Liney, jouer sur un deuxième trio, avoir la glace. C'est difficile pour lui, là.
Tu sais, c'est un gars qui n'est pas hyper rapide. Ça, on le sait, mais on le sait depuis longtemps. Hein. C'était comme ça dans le midget, c'est comme ça dans le junior. On sait que c'est pas une fusée. Sauf que ces gars-là, souvent, ils doivent redoubler d'ardeur. Ils doivent travailler plus fort. Puis le Joshua Roy qu'on avait vu l'an dernier pendant ses 20 matchs, il travaillait fort. Puis là, on dirait que... Puis ça, c'est des suppositions que je fais, là. On dirait qu'il a pris pour acquis son poste sur le troisième trio du Canadien. On l'a renvoyé à Laval parce qu'on n'était pas satisfait de son rendement au camp. Puis là, il est rappelé, il y a une deuxième chance alors que le Canadien est dans la course. Est-ce que c'est tout simplement... La question qu'il va falloir se poser à un moment donné, est-ce que c'est parce que Roy a de la difficulté à suivre le jeu de la Ligue nationale ou est-ce que c'est parce qu'il manque d'ardeur au travail? D'après moi, c'est un des deux, là.
D'autres nouvelles qui sortent, la réunion des gouverneurs, la saison l'an prochain va débuter le 7 octobre. Saison régulière le 7 octobre. Elliot Freeman le rapporte et aussi il rapporte que la Ligue ont été surpris qu'il y a eu une discussion entre Donald Trump puis Poutine hier, parler de NHL puis la KHL, avoir quelques matchs entre des équipes de la NHL et les équipes de la KHL, dont Bettman était vraiment, vraiment surpris de ça. Ils ont parlé aussi du 3-on-3 en prolongation pour voir si ça peut durer plus que 5 minutes. Bettman dit non. Il pense que c'est déjà beaucoup pour les joueurs. Il veut laisser ça à 5 minutes, de changer la formule des séries éliminatoires, retourner au 1-8-2-7-3-6. Bettman dit non. Il aime la formule comme c'est en ce moment. Le match des étoiles va avoir lieu l'an prochain. Puis évidemment, il travaille là-dessus pour que ce soit intéressant parce que ça n'a pas été. Si vous l'avez raté aussi, il y a quelques heures de ça, les Canadiens ont annoncé un contrat, une prolongation de contrat de 2 ans avec l'attaquant Lucas Condotta. OK. Parle-moi, hier, on a vu des jeunes joueurs des Canadiens, des jeunes joueurs des Sénateurs. Parle-moi du noyau des deux équipes, puis lequel entre les deux penses-tu l'avenir est plus prometteur?
Oui, ça, c'est une excellente question parce que je pense qu'il y a des parallèles à faire entre les deux équipes. Les Sénateurs ont fait les séries pour la dernière fois en 2017. Et le Canadien, si tu exclus les 2 années COVID, ils n'ont pas fait les séries depuis 2017. Parce qu'oublie pas que le Canadien, en 2020, avait terminé 24e au classement général et en 2021, 18e au classement général. Donc, il y a quand même un certain parallèle à faire de ce côté-là. Les Sénateurs ont repêché haut. Le Canadien aussi a eu des choix élevés. Et là, je pense que la différence entre les deux équipes en ce moment, c'est que les Sénateurs, à peu près, sinon tous leurs jeunes joueurs, sont déjà arrivés, sont déjà établis. Tu sais, tu penses à des gars comme Stutzla, Sanderson, Brady Tkachuk, Shane Pinto, Ridley Gregg, Dylan Cousins. Tu sais, c'est des gars qui sont vraiment arrivés. Donc, le noyau des Sénateurs qu'on voit en ce moment, ça va être le noyau probablement des 5 prochaines années. Est-ce qu'ils vont s'améliorer? Peut-être un peu, mais c'est quand même des gars qui sont pas mal en train d'arriver à maturité. Le Canadien, à l'inverse, oui, a des joueurs qui sont arrivés à maturité ou tout près. On parle de Suzuki, Caulfield, par exemple. Mais les autres, là, Lane Hudson fait juste commencer. Slavkovski a seulement 20 ans. Puis, Demidov n'est pas arrivé, Michael Hage n'est pas arrivé, Ron Backer n'est pas arrivé, Jacob Fowler n'est pas arrivé. Donc, le potentiel du Canadien, je pense à long terme, puis là, on parle juste de potentiel, mais le potentiel du Canadien à long terme, je crois, est meilleur que celui des Sens, même si en ce moment, ben, les Sénateurs ont une légère avance.
Je te fais entendre le but d'un joueur des Canadiens, un but important hier soir en troisième période.
Voilà Hudson. Hudson s'avance. Tire! Ben, il n'a peut-être pas le boulet de chez Weber, mais là, il vient d'enfiler l'aiguille. C'est 2-2.
Je sais même pas où commencer avec Lane Hudson. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire ça. Lane Hudson a 53 points cette saison. Il y a 3 défenseurs dans la ligue qui ont plus de points que lui. Makar, Werenski et Quinn Hughes. Quinn Hughes a sa saison recrue. Il a eu 53 points en 68 matchs. Hudson a 53 points en 67 matchs. C'est la bonne compagnie, ça, tu penses?
Bien, c'est ça. On en avait parlé, Tony, je pense, soit à BPM ou à ton podcast, le SIC Podcast. On en avait parlé des statistiques futures de Lane Hudson. Puis moi, je t'avais dit que ça pourrait ressembler aux statistiques de Quinn Hughes. Puis, tu sais, Quinn Hughes, là, c'est un gars de quoi? Pas mal dans les 80 points, là, en règle générale.
Il a déjà eu une saison de 92 points l'an passé, 92.
C'est ça, 92. Puis, bon, des fois, il est blessé, mais en général, c'est un gars d'un point par match. Alors, ça pourrait ressembler à ça. Mais ce que je remarque surtout de Hudson depuis le retour de la pause des Quatre Nations, c'est que son jeu défensif a vraiment monté d'une coche. Puis je pense que ça, c'est important. Parce que si tu n'es pas capable d'avoir... si tu n'es pas capable de te défendre dans la Ligue nationale, bien, tu vas avoir moins de temps de glace. Puis Lane Hudson, bien, à cause de ses qualités offensives, plus il y a de temps de glace, mieux c'est pour le Canadien. T'sais, c'est mieux Lane Hudson qui joue 20-22 minutes ouais. que Lane Hudson qui en joue 12-13.
Mec, imagine le nombre de points que ce gars-là aurait eu s'il aurait été sur la première vague en avantage numérique le premier mois et demi de la saison.
Oui, c'est vrai. Parce qu'on avait Madison au début. Mais je pense que c'est correct. Et amener un jeune joueur comme ça, une recrue, c'est correct de ne pas nécessairement le jeter dans la gueule du loup au mois d'octobre.
Ouais.
Regarde, je prends un exemple avec un autre joueur de 19 ans, Will Smith. Will Smith, on a fait très attention à lui, à San Jose au début. C'était très difficile. Puis Will Smith, depuis le début de l'année 2025, c'est vraiment une des meilleures recrues de la Ligue.
Ouais.
Fait que tu sais...
Mais pour l'instant, aujourd'hui, on dit que c'est correct parce que les Canadiens sont dans un place en série.
Oui.
Mais si le Canadien devrait rater les séries par un point, on va penser le premier mois et demi que Lane Hudson n'était pas sur la première vague d'avantage numérique, par exemple.
Ouais. Ben ça, c'est...
En tout cas,
c'est... mettre un paquet de six pour...
Oui, oui, je comprends. Hey, dans les dernières 33 ans, les défenseurs recrues avec le plus de points, c'est Lidstrom avec 60. Lane Hudson, il y en a 53. Il lui reste 15 matchs pour aller récolter 7 points pour égaler, 8 points pour le battre. Donc, il a besoin de 8 points en 15 matchs. Il va le battre, là. Il va être le défenseur recru. Il va être le défenseur recru avec le plus de points depuis 33 ans.
Ah oui. C'est sûr qu'il y a eu une période là-dedans où il faut être honnête, là. Il se marquait beaucoup moins de buts jusqu'au lockout de 2004. Mais depuis 20 ans, c'est sûr que les choses sont revenues à la normale, puis... Non, c'est
non, mais Lidstrom l'a fait en 91-92, là. Il marquait beaucoup de buts,
c'est
là.
Vrai. À une époque où, par contre, les Red Wings étaient dans une autre situation, là. Il n'était pas le défenseur offensif numéro un. Mais je comprends ce que tu veux dire. C'est vraiment... tu sais, ça se compare, comme on dit. Ça se compare à Quinn Hughes. Tu sais, ça m'a l'air du genre de pattern de carrière qu'il pourrait avoir.
Snake, tu t'attends à quoi demain, Canadien, à New York contre les Islanders?
Oh! Vois-tu, c'est très serré. Il y a encore des équipes qui ont des chances. Je regardais les probabilités ce matin sur Moneypuck ou en tout cas un site de genre là. On mettait le Canadien seulement à 30, ça se peut-tu, 34 % de faire les séries. Ça me surprend. Je pensais que les chances seraient plus élevées. Mais, tu sais, parce que les Islanders, ils tiennent leur bout, mais ils ont quand même échangé beaucoup de joueurs. Boston a échangé beaucoup de joueurs. Détroit, c'est une déconfiture totale. Les Rangers sont pas capables de prendre avantage d'un séjour à domicile pour gagner. Alors, demain soir, je m'attends à quelque chose. Écoute, c'est dur de prédire un match comme ça. Peut-être défaite en prolongation du CH ou en tir de barrage, chose comme ça. Ça va être un match par un but, d'après moi.
Merci beaucoup, Snake.
Salut, Tony.
Snake parle des pourcentages de Canadiens faire des séries. Il y a quelque chose d'autre qu'on peut ajouter. Il y a quelque chose qu'on n'a pas pris en considération. C'est une statistique vraiment en faveur des Canadiens et leur chance de faire des séries plus que d'autres équipes dans leur division puis dans leur conférence. Je parle de quoi? Je vais te dire après la pause.